examen avec 24 heures d'avance sur le calendrier annoncé. On en parle ce matin avec le politologue Olivier Roucan. Bonjour.
Bonjour.
Une mise en examen que le candidat lui-même avait anticipé déjà depuis une quinzaine de jours, tout sauf une surprise. C'est un peu l'élément de langage qui revient chez ses soutiens depuis hier soir. Voilà ce qu'on dit par exemple Luc Châtel, l'un de ses porte-parole.
C'est une surprise pour personne, puisque c'est la suite logique de la procédure qui a été enclenchée il y a quelques jours, de la convocation de François Fillon devant les juges en vue de sa mise en examen. Et je note d'ailleurs que dans l'agenda de la semaine, l'agenda médiatique, les uns les autres avaient intégré cela en rappelant que lundi, François Fillon présentait son projet et que mercredi, il serait mis en examen.
Olivier Roucan, on a beaucoup parlé des erreurs de com' de l'équipe Fillon jusque-là. Pour le coup, là, c'est plutôt bien joué, non, d'en faire finalement un non-événement, selon eux, en tout cas.
Oui, après la période de dramatisation du bouc émissaire, il y a la période, la tactique de la banalisation. Donc là, tout est fait pour que finalement, cette mise en examen apparaisse comme un non-événement. Bon, c'est sans doute une façon de... la meilleure façon de poursuivre une campagne sur le fond et de reprendre les meetings, de faire ce qu'il soit possible.
La pré-annonce, ça en réduit l'impact sur, dans les médias, sur l'opinion publique?
Je pense qu'on parle quand même du fond de l'affaire, c'est-à-dire que la mise en examen sur le plan judiciaire, cela signifie quand même sans doute que les juges ont estimé qu'un certain nombre d'éléments sont fondés, que des investigations doivent se poursuivre. Et puis, je remarque quand même en feuilletant la presse ce matin qu'on s'intéresse également à d'autres points sur la relation qu'entretient ce candidat à l'argent. Et donc, si vous voulez, ça ne s'effacera pas. Il y a une banalisation, mais cela va continuer à marquer cette campagne de premier tour.
Alors justement, François Fillon poursuit cette campagne, meeting ce soir dans le Vaucluse, débat télé la semaine prochaine. Est-ce qu'au-delà de sa base électorale, de ce socle dont on a tant parlé, il peut encore espérer aujourd'hui élargir, convaincre de nouveaux électeurs après toutes les révélations des dernières semaines?
C'est l'élément en fait le plus préoccupant pour lui, y compris lorsqu'il a présenté son projet en début de semaine. On a du mal à percevoir une entame sur le fond du projet, c'est-à-dire qu'on assiste à quoi? On assiste à un premier tour qui a été siphonné par la primaire, aussi bien à droite qu'à gauche. Et le débat d'idées...
On a beaucoup parlé du projet, pour le coup, à l'époque.
Voilà. Le débat d'idées a été, à ce moment-là, même si c'était très personnalisé déjà, a été, j'allais dire, évidé à ce moment-là. Et depuis, pour des tas de raisons, les candidats ont du mal à nourrir davantage leur projet. On a l'impression qu'ils ont grillé un peu la totalité de leur cartouche au moment de la primaire. Ce qui fait qu'on a une impression de redite, de stagnation. Et pour François Fillon, c'est la difficulté désormais à dépasser ce fameux noyau qui est en plus assez bas pour un candidat de droite classique. Et il peut d'autant moins le faire qu'il y a quand même l'erreur de fond de communication. On parlait tout à l'heure de ce qui peut marcher maintenant, mais l'erreur de fond, c'est d'avoir commencé sa campagne sur le thème de l'honnêteté.
Et évidemment, ça lui revient aujourd'hui en pleine figure. En tout cas, il veut aller jusqu'au bout. C'est devenu un leitmotiv. Il avait donné le ton d'ailleurs dès sa conférence surprise, sa conférence de presse surprise du 1er mars. On va en réécouter un extrait.
C'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. C'est au peuple français que je m'en remets. Parce que seul le suffrage universel et non pas une procédure menée à charge peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas.
Est-ce que cette résistance dans la tempête, ça peut, au bout du bout, finalement, se retourner en sa faveur?
Bon, d'emblée, on peut dire que ça cadre avec ce qu'attendent un certain nombre de militants anciens, j'allais dire, du RPR, c'est-à-dire le registre un peu bonapartiste et l'homme de caractère, hein, qui renvoie un peu à la figure gaullienne. Sauf que là, si vous voulez, c'est sur un thème qui est celui du suffrage universel contre l'état de droit. Et de ce point de vue, on peut se poser des questions, parce que un chef de l'État, ça doit garantir l'indépendance de la justice et ça doit tout faire pour que l'État de droit fonctionne par rapport à notre registre de valeurs républicaines. Donc, si vous voulez, ça peut aider par rapport, toujours pareil, à un nombre de militants qui sont passionnés dans l'émotion et qui soutiennent contre l'adversité. Mais ça fait se poser des questions et ça crée le trou vis-à-vis de tout notre électorat.
Donc, un éventuel
c'est à double tranchant, si vous voulez.
On en parlait tout à l'heure, il y a donc ce premier débat télé lundi soir entre les les 5 grands candidats. À votre avis, comment vont se comporter ses concurrents sur le sujet? Parce qu'ils se sont beaucoup plaints ces derniers jours de la place que prenaient ces affaires et ces révélations dans la campagne. Est-ce qu'ils vont insister là-dessus ou pas?
Ils ont peu intérêt en général à le faire. Les femmes et les hommes politiques sur les affaires sont presque forcés de donner leur avis. Ils y tiennent peu parce qu'ils savent très bien la précarité, de ce genre de choses. Et ils ont peu intérêt à attaquer leurs adversaires sur le thème de leur relation au financement politique.
Mais chacun, du coup, est quand même un peu obligé ces derniers jours de se positionner sur la transparence, sur la moralisation de la vie publique. Ça, on ne peut que s'en réjouir, non?
Alors, ça devient
un sujet de campagne.
Alors ça, c'était la part prise d'ailleurs par cette affaire dans le débat indique bien qu'il y a vraiment sur le fond des choses à faire et que c'est une préoccupation de l'électorat. L'honnêteté, ça reste quand même la première qualité attendue d'un chef de l'État. Et on se rend compte que auprès de l'électorat, il y a une attente de clarification des règles du jeu. Et c'est parce que les femmes et les hommes politiques repoussent sans arrêt la question, finalement, qu'on a aussi aujourd'hui une telle ampleur prise par ce sujet. C'est parce que pendant des années, même s'il y a eu des avancées, notamment la loi 2013, ça ne va jamais jusqu'au bout. Et sur la question notamment des financements des parlementaires et de la façon dont les subsides sont accordés, il y aurait peut-être des règles du jeu et on parlerait moins de toutes ces choses à adopter.
Merci beaucoup, Olivier Roucan. Je rappelle le titre de votre dernier livre, En finir avec le président, aux éditions François Bourin. Bonne journée.